Demandez de vous lever, s'il vous plaît. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que on a parlé beaucoup, on a dit des bonnes choses. J'aimerais qu'on puisse invoquer le nom du Seigneur ce matin, qu'on puisse, oui, en effet, comme Daniel l'a dit, il a prié pour le message. Ce message que je vais vous donner ce matin, c'est la deuxième fois que je le donne, et la deuxième fois, c'est chez vous. C'est un message que j'ai reçu et je pense qu'il est très particulier pour le temps dans lequel nous vivons. Et j'aimerais que vraiment Dieu ouvre notre intelligence. Amen. Que notre intelligence soit renouvelée, oui, mais que nous soyons tellement ouverts à recevoir ce message, il est pour vous. Amen. Est-ce qu'on peut ensemble élever nos voix et demander à Dieu vraiment de toucher nos cœurs ce matin? Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons parce que tu es digne de confiance, et de, oui, en effet, et de louange. Tous ensemble, élevons nos voix. Allez-y. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es digne de louange, tu es digne de confiance. Alléluia. Seigneur, merci d'ouvrir nos cœurs, merci de renouveler, Seigneur, oui, notre intelligence. Seigneur, donne-nous de comprendre ta parole, de la recevoir. Alléluia, alléluia, alléluia. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit loué, Père. À toi la louange, la gloire. Oh, alléluia, 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 alléluia. Sois béni, Seigneur, sois béni, Seigneur. Alléluia, Jésus. Amen. Merci, merci, merci. C'est toujours une joie d'être là avec vous. Lorsque je viens dans cette salle, je me réjouis. Je me réjouis de vous voir avec le sourire, avec la paix de Dieu. Cette paix qui surpasse toute intelligence et qui sait si bien garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Si on se préoccupait tout le temps de nos petits bobos, je pense qu'on n'irait pas loin, n'est-ce pas? Alors, c'est pourquoi Dieu nous donne sa paix. On va enlever ça, s'il vous plaît, parce que moi, je bouge beaucoup. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? On va enlever ça, parce que moi, je me fais du grabuche. Hein? Voilà. On enlève ça. On met juste ça là-bas, peut-être. Ou... Excusez-moi, ça me prend de la place, de l'espace. Oh, alléluia! Oups, j'ai rien entendu. Amen, 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 amen. De Timothée, s'il vous plaît, nous allons lire ensemble juste quelques versets dans 2 Timothée, chapitre 2. Et à partir du verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Le thème de mon message, c'est « Nous sommes en guerre ». Est-ce que vous le saviez? Probablement que oui, n'est-ce pas? C'est une guerre qui est spirituelle et nous avons besoin de comprendre ce que et à quoi le Seigneur s'attend de nous. Et nous avons lu que Paul dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Et il n'est de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Alors, j'aimerais juste souligner d'abord qu'il y a plusieurs aspects différents que nous avons avec notre relation avec Dieu. Et une des premières choses que nous savons et que nous lisons, c'est que nous faisons partie de la famille de Dieu. Donc, il y a une relation qui se passe, évidemment, qui est familiale. Il est notre Père. Amen. Et puis, nous sommes ses enfants. Et nous avons une très grande famille. Voyageant un peu plus aujourd'hui, et puis allant ici et là sur la planète, eh bien, je me rends compte qu'il y a des gens de toute confession, de toute langue, et qui vraiment prient Dieu. Certains le font très bien, d'autres peut-être moins, parce que peut-être pas tout à fait d'aplomb sur la parole de Dieu, mais ils invoquent Dieu. Et béni soit Dieu pour cela, n'est-ce pas? Et il y a une famille qui est là, qui existe, les rachetés de l'Éternel, vous et moi, qui sommes sauvés par grâce. Et partout, les hommes prient. Ils prient dans leur langue. Alors, c'est incroyable, parce que là, on se rend compte que finalement, évidemment, Dieu est international et qu'il comprend toutes les langues et même les dialectes. C'est incroyable, n'est-ce pas? Mais Dieu est de toute intelligence, évidemment. Il a créé toutes choses et les langues, dans le fond, ben oui, tout vient de lui. Et il comprend donc, peu importe dans quelle langue vous le priez. Alors, béni soit Dieu, je ne me souviens plus quelle était la langue que j'ai parlé le jour où j'ai reçu le baptême dans l'Esprit-Saint, parce que je ne la connaissais pas. Alors, je ne pouvais pas identifier cette langue. C'était un peu, très particulier, ça ressemblait à du coréen peut-être, ou du chinois. Mais je ne pouvais pas vraiment identifier, mais je savais une chose, c'est que j'étais connecté avec le ciel. J'étais connecté avec Dieu et il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé ce soir-là. Et je bénis Dieu pour ce frère. C'était un arabe converti. Et il était au collège biblique. Moi, j'y étais aussi. J'étais là, appelé de Dieu, mais je n'avais pas connu le baptême dans l'Esprit-Saint. Alors, évidemment, c'est un collège pentecôtiste, Assemblée de Dieu des États-Unis, implanté à Bruxelles. On a fait notre collège là. Et il y avait là donc cet arabe. Puis un soir, il prie avec moi. Et je bénis Dieu pour la persévérance de cet homme. C'était un homme de guerre. C'était un vrai guerrier pour l'Éternel. Et c'est à cela que je vais vous appeler ici justement ce soir. Et à cause de sa persévérance, parce que moi, je trouvais que c'était long un peu. Vous savez, quand on prie et qu'on reçoit pas dans l'immédiat, on trouve ça long. Mais quand je pense que ils ont persévéré pendant 10 jours pour recevoir le baptême dans l'Esprit. Ils ont été là 10 jours dans le même endroit. Et finalement, ça s'est accompli parce qu'il y avait eu une promesse et Dieu a accompli sa promesse. Amen. Et ce soir-là, cet homme a vraiment persévéré. Il a prié avec moi, il avait mis sa main sur moi, puis il parlait en langue et puis probablement aussi en arabe. Et il parlait français aussi, alors il y avait tout un mélange. Et cet homme-là a continué à prier. Et je voyais que cet homme-là était en guerre. C'était une guerre spirituelle. Et il avait un tel désir de voir l'Esprit de Dieu descendre et envahir mon esprit, mon âme, mon corps, mon être tout entier, qu'il est allé jusqu'au bout. Amen. Vous savez, parfois, on trouve qu'on n'est pas toujours très persévérant. Mais il est bon d'être persévérant. Quand nous prions Dieu, nous devons aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous recevions l'exaucement, comme on a entendu ici. Dieu est fidèle et il exerce notre patience. Et nous sommes tellement impatients. Dites-moi amen. Ah non, il y a seulement moi, je pense. Non, mais je pense qu'on est tous impatients. Et on voudrait que les choses se passent comme ceci et puis comme cela. Et parfois, Dieu permet que ça dure et puis que ça dure encore. Et finalement, l'Esprit de Dieu est descendu sur ma vie. Et j'ai commencé à parler une langue étrangère, béni soit Dieu, une langue qui était connue de Dieu, ça c'est certain, qui glorifiait et qui honorait donc le nom du Seigneur. Alors vous allez voir quel rapport ça peut avoir avec ce que je vous dis ce soir. Mais d'abord, première chose, nous devons savoir et nous identifier à la famille de Dieu. Amen. Nous devons pouvoir nous identifier à la famille de Dieu et que nous avons des enfants de Dieu, des frères et des sœurs dans la foi, dans le monde entier. Amen. Et il existe plusieurs aspects, évidemment, à part cela. Et je vais juste vous les nommer rapidement. Parce que nous sommes, évidemment, dans la famille de Dieu, ça c'est important. Et parce que nous sommes liés par le sang de Jésus et maintenus ensemble par notre amour pour lui, mais aussi notre amour que nous avons les uns envers les autres. Je crois que cela, c'est tellement important que nous puissions réellement savoir que nous sommes identifiés à la famille de Dieu, nous aimons Dieu et nous aimons tous ceux qui font partie de la famille de Dieu. Ça va jusque-là? Ensuite, il l'appelle aussi sa maison. Nous sommes sa maison. Nous sommes son temple. Nous sommes son corps. Amen. Ensuite, il y a cette relation entre berger et puis les brebis, les moutons. Alors, nous avons une relation de berger avec les brebis. Puis, il a appelé l'Église son œuvre créée en Jésus-Christ, que nous trouvons d'ailleurs dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, ce qui signifie que nous sommes l'œuvre de ses mains. Dieu travaille nos vies comme un vase sur le tour du potier étant l'œuvre des mains donc du potier. Amen. Nous sommes l'argile. Nous sommes identifiés comme étant aussi de l'argile. Et nous sommes sur le potier du maître et là nous sommes sur la table du potier pour être donc façonnés par lui. Est-ce que vous sentez parfois de la pression sur vous? Vous savez, lorsque le potier met de la pression sur l'argile, c'est pour pouvoir lui donner une forme. Alors, lorsqu'il met de la pression sur nous parfois et on ressent cette pression-là, eh bien, béni soit Dieu, nous savons que Dieu est en train de travailler nos vies. Amen. Béni soit Dieu, ça marche, ok. Ensuite, nous sommes aussi son ouvrage, c'est ce que l'Écriture nous dit, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Wow. De bonnes œuvres que Dieu, finalement, a préparées lui-même pour nous. Alors, il y a eu une préparation, il y a eu un travail qui s'est fait, et Dieu a préparé des bonnes choses pour nous, des bonnes œuvres. Amen. Béni soit Dieu. Alors, ok, on continue. Nous sommes son chef-d'œuvre, un peu comme l'artiste qui est là sur sa planche à dessin ou sur sa toile, il est un artiste, il est en train de nous façonner. Et béni soit Dieu. Et nous avons ainsi, nous ressemblons, oui, de plus en plus à celui qui nous a créés, à celui qui nous a sauvés. Il y a un travail qui se fait. Vous ne pouvez pas imaginer jusqu'à quel point Dieu travaille nos vies. Dieu nous travaille d'une façon exceptionnelle parce que nous sommes et nous faisons partie de son peuple. Nous faisons partie de son troupeau, de son pâturage. Nous sommes aussi donc ses brebis. Tous des aspects dans notre relation avec notre Père Céleste et dans toutes ces facettes différentes, nous expérimentons le travail de Dieu dans et à travers nos vies et de différentes manières. Dieu a ses façons de travailler avec nous. Il nous connaît mieux que nous-mêmes, n'est-ce pas? Dieu me connaît, il sait comment faire avec moi, il connaît mes points faibles, mes points forts, et il va travailler surtout sur mes points faibles, et il va utiliser mes points forts pour sa gloire. Amen. Alors, donc, quand je vous parle, je peux m'adresser donc à vous en tant que troupeau de Dieu, les brebis, ou je peux m'adresser à vous comme maison de Dieu, son temple, sa demeure, ou comme son ouvrage, ou encore son chef-d'œuvre, voyez-vous? Ou je pourrais m'adresser à vous en tant que cultivateur de cette terre qui sème sa bonne semence et produit de bons fruits. Ça va? Ça rentre? Ok. Ou je pourrais même vous appeler son vignoble. Comme Jésus a dit, je suis la vigne et vous êtes mes sarments. Alors, vous voyez un peu toutes ces facettes-là et de quelle façon Dieu nous sert, nous utilise et comment il travaille nos vies dans différentes façons et sous donc différents aspects. Et puis, il y a un autre aspect que je vais surtout m'attarder avec vous ce matin. Et cet aspect que je vais m'attarder avec vous, c'est que nous sommes aussi appelés, comme on l'a lu, des soldats. Youpi. Amen. Alors, c'est tellement merveilleux quand on commence à parler, évidemment, des choses extraordinaires que Dieu fait, et sa paix, sa joie, sa tranquillité, et puis tout ce qu'on peut vivre en lui. Et là, on est heureux dans tout cela. Maintenant, Dieu nous appelle aussi maintenant à être des soldats. Le saviez-vous? Maintenant, savez-vous ce qu'est un soldat? On va parler un tout petit peu de cela, s'il vous plaît. La Bible appelle Dieu lui-même un guerrier. Alors, voyez-vous, ça, on se ressemble, non? Nous sommes dans la famille de Dieu. L'Éternel nous dit, Exode chapitre 15, verset 3, l'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il est un vaillant guerrier. Et la Bible montre la relation de Dieu avec les enfants d'Israël qui étaient évidemment avant esclaves pendant 400 ans. Et puis pendant ces 400 années, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là, le peuple de Dieu? Eh bien, ils ont construit le palais de Pharaon, entre autres, des pyramides, puis tellement de choses énormes. Et c'était un travail qui était dur, mais ils ont aussi cultivé la terre, évidemment. Hein, ils ont pris soin des animaux, mais ils ne connaissaient pas hein, vraiment qu'est-ce que c'était d'être un soldat. Ils étaient esclaves. Et nous pourrions réellement, nous encore, même chrétiens, enfants de Dieu, rester des esclaves ou redevenir des esclaves si on ne fait pas attention et où l'ennemi va essayer, hein, Pharaon, comme il l'a fait d'ailleurs avec Israël, il les a relâchés, hein, mais ensuite il a dit non, je vais les récupérer parce que j'en ai besoin. Et lorsque nous sommes sortis de notre esclavage, qu'est-ce que l'ennemi fait? Eh bien l'ennemi essaie de nous récupérer, il nous laisse partir parce qu'il n'y a pas le choix. Mais éventuellement, il y aura des failles dans nos vies, il y a des désobéissances, je ne sais pas, même parfois même le péché qui existe et le diable prend un peu, et même parfois beaucoup, et de son autorité sur nos vies. Mais nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes des rachetés de l'Éternel, des sauvés par grâce, amen. Et il nous a donné sa force, il nous a donné son esprit, il nous a donné l'intelligence aussi pour réfléchir et les dons spirituels et tout l'armement et l'équipement du soldat pour être des vaillants guerriers, d'être forts dans la bataille, non pas sous l'emprise de l'ennemi et des circonstances. Et je bénis Dieu parce que vous êtes passé au travers d'une situation ici et vous êtes passé au travers et puis je vous regarde aujourd'hui et il me semble que vous êtes bien là, bien portant et Dieu vous a gardé, Dieu vous a fortifié. Amen. Hello. Nous sommes des soldats. Nous sommes aussi des vainqueurs. Non pas des vaincus, mais des vainqueurs. Et au travers de tous ces combats que nous vivons, Dieu est là avec nous, il est présent avec nous, et il nous donne sa force et tout l'équipement donc d'un guerrier. Donc Israël n'a jamais été, dans le fond, jusque-là, une grande nation, et une grande armée en tout cas. Et il a fallu qu'il apprenne la guerre, il a fallu qu'il s'exerce à la guerre, il a fallu que Dieu lui montre comment faire la guerre. Et on sait que Israël a dû combattre les ennemis qui étaient en Canaan et il y a eu vraiment des choses incroyables qui sont produites. Et ils ont dû apprendre à faire la guerre. Et comme nous également, nous devons apprendre à faire la guerre, nous devons apprendre à être des guerriers. Non pas sur la défensive seulement, mais aussi dans l'offensive. Et Dieu nous a donné tout un équipement spirituel pour non seulement être sur la défensive, mais d'être aussi à l'offensive. Et de pouvoir vraiment aller vers notre ennemi, comme l'a fait d'ailleurs, on va le voir, David à un certain moment. Amen. Ok, Ézéchiel chapitre 37, verset 10 dit, et il parle là d'une armée nombreuse qui se lève. Avant cela, on voit que c'était Israël, évidemment, qui est là, un peu comme toutes les eaux éparpillées dans une vallée d'ossements. Et puis, il se passe un miracle, hein, parce que l'homme de Dieu, Ézéchiel, va parler, prophétiser sur ces ossements, et il va avoir un grand miracle. Les os se replacent, la chair, les nerfs vont croître. Et puis, évidemment, ensuite, l'Esprit de Dieu vient, souffle sur tout cela, et voici, il va se lever là, une grande armée. Amen. Quand on regarde Israël aujourd'hui, même s'ils ne sont pas très très nombreux dans le pays encore, mais je vous le dis que ça rentre au pays, comme on dit. Et il y en a qui ne sont pas très contents, mais pourtant ils sont en train juste de récupérer les terres, hein, que finalement, il leur appartenait. J'écoutais un enregistrement dernièrement, et puis comment, malheureusement, eh bien, il y a une certaine désobéissance dans tout cela, parce qu'ils ont restitué certaines terres, hein, à l'ennemi, je dirais, hein, alors que ça leur appartenait. J'ai même entendu quelque chose de plus fort sur cet enregistrement, que lorsque ils sont arrivés dans le pays, donc, en tout cas, dans la conquête, ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont repris le temple, et normalement, même là, il aurait même fallu que cette mosquée qui était là, bien présente, aurait dû tout simplement être sous la dynamite, et puis de faire sauter cela. Ils auraient dû reconquérir tout cela. Et je crois réellement, et c'est la question qui a été posée, si on allait faire sauter cette mosquée, finalement, ben, le chef d'État de l'époque a dit au rabbin, non, et puis il a hésité. Normalement, ben, les hauts lieux, comme l'Écriture parle, il fallait enlever les hauts lieux, et c'en était un d'hauts lieux en Israël, et à Jérusalem même. Alors je me suis dit, j'ai réfléchi à tout ça, j'ai dit, mais c'est vrai dans le fond. Il aurait fallu, mais politiquement c'était impossible, mais par la grâce de Dieu, cela aurait dû être ainsi. Aujourd'hui, il y a encore à nouveau, évidemment, cette guerre qui existe et l'ennemi est dans les murs. Allô? Lorsque j'ai écouté cet enregistrement, j'ai dit, waouh, il y a une révélation là que vraiment, ça m'a touché. Je me suis dit, oh là là, il y a eu une certaine désobéissance, peut-être même là, de la part d'Israël, alors que Dieu leur rendait ce qui est leur possession, dans le fond. Et ils auraient dû aller beaucoup plus loin dans leur démarche, dans cette guerre qui a duré 6 jours, et où Dieu leur a permis de reprendre cette terre. Vous savez, la politique, c'est quelque chose de terrible. Et nous devons faire très attention aujourd'hui, nous, enfants de Dieu. Nous devons nous soumettre aux autorités, mais il y a des choses où il faut obéir à Dieu. Il faut obéir à Dieu plus à Dieu qu'à l'ennemi. À l'ennemi de nos âmes qui ne nous aime pas forcément. Ils nous aiment comme individus, ils veulent notre vote, mais ne nous aiment pas comme individus forcément. Et surtout si nous avons la foi en Dieu. Si nous nous déclarons chrétiens et enfants de Dieu, nous sommes une menace un peu. Alors qu'ils devraient glorifier Dieu pour cela. Parce que leur bénédiction, eh bien, est liée à notre bénédiction. Amen. Alors, c'est une parenthèse que j'ai ouverte, que je referme. Rappelez-vous que le capitaine de cette armée, l'agneau de Dieu, est aussi le lion de la tribu de Juda. Amen. Alors, il est l'agneau de Dieu, mais il est aussi le lion de la tribu de Juda. Ça fait une grande différence, vous regardez un agneau, vous regardez un lion, oh là là, ça fait pas bon ménage, hein, certainement. Un jour peut-être, oui. Il y a un moment où, en tant que brebis, obéissant, nous suivons fidèlement le berger, béni soit Dieu pour cela, mais quand vient la guerre, les moutons ou les brebis doivent se transformer en soldats. J'aimerais que vous puissiez bien comprendre cela. Nous sommes un peuple obéissant, j'espère, soumis au divin berger, j'espère. Amen. Et puis, on suit le berger, et puis on écoute les directives, et puis on est soumis à ses exigences. Et les brebis, les moutons, lorsqu'on les regarde, ben, évidemment, ils suivent le berger, et si on les regarde, ils semblent être soumis. Parfois, il faut les rattraper par la patte ou bien, on connaît un peu l'histoire. Et les chiens vont et puis essayent de ramener parfois des brebis qui s'égarent. Et Dieu va faire tout ce qu'il faut pour nous ramener dans son troupeau aussi. Si on s'éloigne, tant soit peu, mais Dieu fait tout ce qu'il faut pour nous ramener. Avez-vous fait l'expérience déjà? Il l'a fait avec moi. Amen. Alors nous sommes soumis, nous sommes brebis, nous sommes moutons, mais quand vient la guerre, les moutons doivent se transformer en soldats. Quand il y a de l'adversité, quand viennent des choses difficiles, quand ces choses viennent vers nous et nous sommes dans un combat spirituel, la brebis devient soldat. Et elle va s'opposer, cette brebis qui devient soldat, bien équipée, va s'opposer à tout ce qui vient contre elle, contre lui. Elle est équipée pour cela. Est-ce que vous entendez bien ce que je dis? Ok. Alors ma responsabilité ici ce matin, comme la responsabilité de votre pasteur, de son épouse et de l'équipe, c'est évidemment de diriger l'Église, de diriger le troupeau de Dieu. On a une responsabilité, c'est ma responsabilité, de ne pas vous dire tout est bien, tout est beau, mais parfois aussi de dire, oh, attention, il y a des choses à changer. Il y a des comportements à changer. Il y a un langage à changer. Et cela, je l'ai appris avec le temps, avec les années, et où j'ai découvert que c'est bien beau d'être une brebis du Seigneur, amen. Et on est tout tellement heureux d'être une brebis du Seigneur. Hello? Soumis, et béni soit Dieu. On l'a dit, la soumission. Mais béni soit Dieu lorsqu'aussi on voit un homme, une femme de guerre. Et un guerrier, une guerrière. Un homme et une femme qui se lèvent contre les œuvres du diable. Amen. Qui se lèvent. Et qui prend autorité au nom de Jésus, par le sang de Jésus, et prend une autorité particulière. Je bénis Dieu pour les hommes de prière. Je bénis Dieu pour les femmes de prière, pas seulement ceux qui viennent à l'église le dimanche matin, et puis qui viennent chercher la bénédiction de Dieu, mais je bénis Dieu, et Dieu bénit aussi, et surtout, vous entendez, ceux qui combattent avec lui et pour lui. Et le combat, c'est le combat de la foi. Le combat, c'est la prière. C'est l'élément que Dieu nous a donné. C'est un outil de guerre. Vous ne pouvez pas imaginer combien cet outil peut faire du ravage dans le camp de l'ennemi. Lorsqu'il y a une prière faite dans l'autorité de Jésus, l'ennemi le sait. Si vous manquez d'autorité, il le sait aussi. Mais si vous êtes rempli de foi, de courage, et puis que vraiment vous marchez dans les voies du Seigneur, vous êtes imbattable. Si nous suivons les recommandations du divin capitaine qui donne des ordres et nous dit comment faire la guerre, alors nous allons remporter la bataille. Lui est avec nous aussi. Il n'est pas contre nous, mais il est avec nous. Il combat avec nous et pour nous. Alors vous êtes invincible avec Dieu. Sans lui, non, bien sûr, mais il y a une très grande faiblesse en nous. Nous sommes des humains encore. Et celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus est en moi. Son esprit est en moi. Il y a une force incroyable qui est en moi. N'oubliez pas, vous êtes des chrétiens, vous êtes des comme Christ. Wow! Alors, il y a une histoire à ce sujet-là que je vais vous citer là. C'est l'histoire, il y avait dans l'armée d'Alexandre le Grand, j'ai lu ça, un fort mauvais soldat. En outre, il portait le même nom que son général, il s'appelait Alexandre. Et puis un jour, excédé d'entendre parler de la mauvaise conduite du soldat Alexandre, le conquérant macédonien, Alexandre le Grand, le fit comparaître devant lui. « Choisis maintenant, dit-il, ou tu deviens un vaillant soldat, ou tu prends un autre nom que le mien. » Choisis, soit que tu es un vaillant soldat, un vaillant guerrier, ou alors prends un autre nom que chrétien. Le chrétien doit être un vaillant soldat. Il y a une dimension dans la vie du chrétien qui est méconnue encore et trop souvent parmi la famille de Dieu. Et parfois, nous sommes soumis à un joug encore d'esclavage et l'ennemi, le diable, souvent nous met là sous ce joug-là et l'oppression, il est l'oppresseur, alors que nous devions être des vainqueurs et au nom de Jésus. Amen. Dieu veut des soldats. Des soldats. Un jour, un homme sortait de l'église et il attendait pour serrer la main de son pasteur. Et celui-ci, voyant l'homme, il prit par la main et le tira de côté. Puis le pasteur va dire à cet homme-là, Vous avez besoin de vous engager dans l'armée du Seigneur. Et cet homme-là a répondu, mais je lui appartiens déjà. Ah bon? Répliqua le pasteur. Pourquoi? Nous ne te voyons pas dans l'église. On te voit juste dans les moments exceptionnels, Noël, Pâques. Et puis l'homme lui chuchota de manière confidentielle, je suis un agent secret. Dieu veut pas des agents secrets. Il veut des authentiques soldats qui s'identifient avec courage. Travaillez pas en secret, mes amis. Soyez pas des chrétiens secrets. Hein? Non, comme cette dame a témoigné tout à l'heure. Alléluia, par son sourire, par sa présence, elle émanait la gloire de Dieu et la question lui fut posée. Est-ce que tu es une chrétienne? Wow. Est-ce qu'on vous a déjà posé la question? Est-ce que les gens ont déjà été embarrassés en votre présence? Est-ce que les gens détournent le regard parce qu'ils ne sont pas capables de pouvoir garder les yeux sur vos yeux parce qu'ils voient quelque chose qu'eux n'ont pas et qui révèle leur cœur souvent de péché? Est-ce que cela fut déjà votre expérience? Il y a des gens qui sont là, ils sont mal à l'aise en notre présence, parce que nous sommes là comme des enfants de Dieu, remplis de joie, d'espérance. Il y a quelque chose en nous qui émane, qui sort de nous. Il y a la gloire de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu, il y a la joie de Dieu. Amen. Est-ce que vous avez fait l'expérience? Béni soit Dieu. Amen. Sinon, efforcez-vous un tout petit peu, d'être un peu plus soldat de Jésus-Christ, combattant dans l'Église et la famille de Jésus-Christ. Combat le bon combat de la foi dans 1 Timothée 6, 12. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession. C'est pas tout de faire une confession. Aujourd'hui, je prends garde, aujourd'hui même, de dire aux gens dans l'église, là où je fais un appel d'âme, et je dis qui veut recevoir Christ comme sauveur personnel, et puis on les encourage à lever la main. C'est très facile de lever la main. Hello. Vous êtes perdu dans la foule, dans la grande foule souvent, et puis là, le prédicateur vous dit, allez, qui veut recevoir Christ, et puis là, levez la main. Mais c'est un peu plus difficile quand on vous demande de vous identifier, de vous dire, allez, approchez-vous, avancez devant. Venez à l'autel, venez confesser vos péchés publiquement. Et publiquement, vous recevez Christ comme votre sauveur, vous devenez disciple de Jésus. C'est un peu plus difficile, n'est-ce pas? Il y a un peu plus d'engagement, il y a une visibilité qu'il a de votre part. Et là, vous avez besoin vraiment de vous engager publiquement. Billy Graham disait que dans toutes ses campagnes d'évangélisation, et où ces milliers recevaient Christ, et puis il disait, sur tout ce nombre-là, 4 sur 10 personnes que l'on retrouve dans l'Église, c'est déjà pas mal. Non seulement une famille, nous sommes dans une famille aimante, mais aussi dans une armée audacieuse et bien équipée, qui est une menace pour l'enfer. Dites-vous une chose, vous, chrétiens, enfants de Dieu, vous êtes une menace. Et une telle menace que dans certains pays, on voit comment on fait la guerre aux chrétiens, comment on fait la guerre au christianisme. On fait la guerre aux croyants, on fait la guerre. On les tue, on les met en prison, on les lapide. Ils subissent la torture. Nous avons vu cela. J'ai vu des images où on les place dans un trou. Il y a juste la tête qui dépasse et puis là, la personne va mourir. On n'aime pas la chrétienté. Avez-vous remarqué ça? La chrétienté est bafouée. Pourquoi la chrétienté est bafouée? J'ai comme l'impression qu'il nous manque quelque chose pour que réellement on dise, waouh, il y a quelque chose là d'exceptionnel. Il manque quelque chose à la chrétienté, pas seulement de dire, voici, on a la foi en Christ, nous nous identifions comme chrétiens, et il nous manque quelque chose parfois. La persécution, évidemment, nous la reconnaissons et nous la voyons dans les actes des apôtres et où les chrétiens sont persécutés, sont mis à mort, mais ils ne renient pas leur foi. Et je me demande parfois aujourd'hui la façon que nous vivons notre chrétienté, s'il arrivait ici une armée avec des fusils et puis nous dirait, voici, vous reniez votre foi ou bien on vous tue, vous faites quoi? Ça nous permet de réfléchir quand même. Est-ce que je serais prêt à dire non, eh bien, je suis chrétien, j'appartiens à Jésus-Christ et je garde ma foi en lui. Amen. Mais c'est facile, mais lorsque nous voyons, quand nous voyons ces gens-là qui sont là devant le fusil, et soit qu'ils renient leur foi, ils deviennent adeptes d'une autre religion ou alors on les tue. Et vous voyez ces gens avec le sourire et même de la louange dans le cœur, comme dans les actes des apôtres, ils louent Dieu, alléluia. Et on les tue, mais ils gardent leur foi et ils gardent leur salut. C'est une armée qui est là, c'est une armée qui est visible. On peut voir cette armée au travers de leurs œuvres, au travers de leurs actes. Tantôt on disait, on parlait des miracles, on parlait des signes, on parlait de tout cela que nous voudrions voir nous aussi. Mais il n'y a pas seulement cela, mes amis. Dans l'Église de Dieu, c'est pas seulement les signes, les prodiges et les miracles. Il y a une visibilité qui est différente aussi, très facile parfois, que lorsqu'il y a des signes, prodiges, miracles, de croire. Maintenant, il y a la suite qui va suivre. Voyez-vous, les 10 lépreux ont été guéris, toutes les 10, un seul est venu rendre gloire à Dieu. Amen. Alors, nous sommes des chrétiens, nous, charismatiques, et nous voulons voir les charismes. Et aujourd'hui, nous voyons des séminaires du surnaturel, nous voyons des séminaires de tout genre. En tout cas, j'irai pas plus loin. Et parce que les gens, vous, Église, ou moi, peut-être aussi, nous sommes en quête de quelque chose de surnaturel. Nous avons besoin du surnaturel de Dieu. Mais pourquoi? Dites-moi, frères et sœurs, pourquoi avons-nous besoin du surnaturel de Dieu? Est-ce que notre foi n'est-elle pas branchée sur Dieu lui-même? Est-ce que notre confiance en lui n'est pas en lui, justement, et non pas sur les manifestations de lui? J'aime Dieu malgré que le surnaturel ne se produit pas. Allô? Avez-vous besoin du surnaturel? Attention à ce que je dis là, je fais bien attention à ce que je dis. Je bénis Dieu pour le surnaturel. Je bénis Dieu parce que cela accompagne la prédication. Et la foi, et cela nous ouvre les yeux sur la puissance de Dieu aussi. Et Dieu se manifeste avec gloire et puissance, et il guérit, et il fait des choses extraordinaires. Hello. Je sais que c'est difficile ce que je suis en train de dire, et je sais que je le dis un peu partout aujourd'hui. Je dis, faites bien attention. Faites bien attention. Il y a une séduction aujourd'hui incroyable. C'est la fin des temps. Et où il y a des faux prophètes, il y a des faux prédicateurs, il y a des professionnels, il y a même des prophètes professionnels. Béni soit Dieu pour les vrais prophètes de Dieu. Béni soit Dieu pour ceux qui parlent de la part de Dieu. Mais avez-vous remarqué les prophètes de l'Ancien Testament? Ils ne venaient pas juste pour caresser le poids du bon sens. Ils allaient dans l'autre sens aussi. Et lorsque les prophètes nous disent des choses qu'on ne veut pas entendre, est-ce qu'on les aime encore? On les a mis à mort dans l'Ancien Testament. On les a lapidés, n'est-ce pas? Maintenant, le fait que l'Église de Dieu, c'est je dirais, appesantie. Alors, je sors un peu de mon message parce que je ne sais pas, je sens une direction dans ce sens-là. Est-ce que c'est parce que nous en demandons de ces choses-là qu'il y en a? Dans la consommation aujourd'hui des biens, de l'alimentation, ou bien de n'importe quoi, c'est parce qu'il y a des consommateurs, non? C'est parce qu'il y a des gens qui ils veulent consommer ça et ça et ça, puis même s'il y a beaucoup de sucre, ça fait rien, c'est bon. Mais c'est pas bon pour ça. Mais il y en a qui veulent ça. Hein. Aujourd'hui, je fais bien attention. On regarde, il y a du sucre, puis un peu moins maintenant. Hein. Vous êtes là? Vous regardez un peu les films aujourd'hui, c'est terrible ce qu'on regarde à la télévision. Moi, je ne regarde plus, devinez. Et vous? Tout ce qu'on regarde aujourd'hui, ça vous pollue l'esprit, incroyable. Mes amis, fermez la télévision ou bien zappez vite, 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 vite. Chez nous, quand je suis passé vite, ma femme me le dit. Ok. Parfois, je suis passé vite. Zappez, mes amis. Mais il y a des gens qui consomment ça. Donc, on produit des films de sorcellerie et puis de n'importe quoi. Et puis, qui vient, et puis les gens vont vers la guerre, la tuerie, les meurtres, et puis le sang, et puis les gens, ils s'alimentent de ça. Donc, on produit des films. Alors, j'ai essayé de réfléchir sur ce sujet-là. Alors, je déborde un peu de mon message. Si aujourd'hui nous voyons certains ministères qui se produisent, et moi, vous savez, avec un discernement, vous pouvez voir un tout petit peu, vous dites, oh là, voici un homme très professionnel. Et qui est accrocheur aussi. Hello? Ils accrochent. Ils sont professionnels dans leur façon de... Pourquoi je vous dis ça à vous? Parce que je pense que vous êtes mûrs assez. Vous comprenez? Vous êtes adulte assez pour que je puisse vous dire cela. Ma chère sœur, tu me permets? Sinon, je m'arrête. Non, mais je te demande la permission. Mais je crois que nous sommes assez mûrs ici, Église du Seigneur. Vous êtes assez mûrs ici pour entendre ce que je vous dis. Parce que je sais que vous êtes une Église charismatique. Vous êtes une Église qui veut Dieu, qui veut voir la gloire de Dieu. Moi aussi, je suis de tout cœur avec vous. Mais je veux l'authentique de Dieu. Je veux le vrai de Dieu. Je ne veux pas la contrefaçon. Amen. Dites-le fort. Amen. Je veux que Dieu vous entende ici. Il va vous envoyer des hommes de Dieu, et puis matures dans la foi, et qui sont authentiques, et qui sont justes dans la prédication. Et qui va faire de vous des vrais soldats. Dieu n'honore pas ce genre de ministère, même qui rassemble des foules, même des milliers de gens, mais qui sont tout simplement charismatiques, et puis qui ont le verbe facile, ils sont très professionnels, ils ont beaucoup d'argent, et ils cherchent l'argent. Alors, puisqu'ils ont besoin d'argent, ils vont commencer à vous parler de la prospérité. Alors nous, les chrétiens, on ne peut pas être dans la disette. Mais Paul disait, moi je me plais dans la disette comme dans l'abondance. Je ne suis pas juste chrétien et puis pasteur ou évangéliste quand j'ai les poches pleines. Ça m'arrive rarement. Mais même dans la disette, on parlait de Rimouski tout à l'heure, mon frère, c'est par la foi qu'on a vécu. Lorsque j'ai regardé après mes 8 années de travail là-bas, j'ai regardé ma paye. Durant ces années-là, j'ai dit, waouh, Seigneur, comment on a fait? Mais on l'a fait par la grâce de Dieu. Amen. Et on a fondé des églises dans le bas du fleuve, etc. Mais toute la gloire est à Dieu. Mais Dieu a pourvu à nos besoins. Mais aujourd'hui, non, il faut les choses faciles. Alors, le monde est un monde financier, n'est-ce pas? Si les finances ne fonctionnent pas, ben, tout s'écroule. Le monde fonctionne par les finances. Alors, les gens que vous êtes, vous et moi, eh bien, j'ai besoin d'argent, et puis, il y a une facilité d'avoir de l'argent, et puis, donner, puis vous allez recevoir. Oui, donner, oui. Ce qui appartient à Dieu, donner à Dieu. On est d'accord? Mais je ne peux pas acheter Dieu. Je ne peux pas donner 100 dollars à Dieu pour m'en avoir 1000. C'est une hérésie. Fausse doctrine. J'ai vu de ces choses qui aujourd'hui me lèvent le cœur. Et où tu amènes ton aumône devant, puis on t'impose les mains, et pour l'aumône que tu as donné, tu reçois la bénédiction. Ça va? Vous m'aimez encore? Vous ne pourrez jamais acheter Dieu. Vous ne pourrez jamais tordre le bras de Dieu. N'essayez pas de lui tordre le bras, non. Dieu est Dieu, il est souverain et il sait de quoi vous avez besoin. Et il est riche et Dieu veut que vous soyez prospère. Amen. Mais quand prospère l'état de ton âme? Si ton âme n'est pas en santé, ben la prospérité ne te sert à rien. Maintenant, je vous souhaite des millions et millions et millions. Le million tangué, là. Et je veux vous garder votre sourire, là, ce matin. Pourquoi je dis ça aujourd'hui et pourquoi pas hier? C'est parce que l'Esprit de Dieu m'a saisi. Parce que l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre des choses. Amen. Et je crois que ceux qui prêchent ces choses, eh bien, probablement qu'ils ne se rendent pas compte jusqu'à quel point ils sont en dehors du plan parfait. Je dis bien du plan parfait de Dieu. Amen. Et mon cœur n'est pas, je n'ai pas un jugement méchant. Mais c'est comme si je deviens... Il y a une sainte colère. Est-ce qu'on a le droit d'être en colère parfois? Est-ce qu'on a le droit d'être en colère, mes amis? Quand la colère est utilisée dans la bonne direction et pour les bonnes choses, oui, Jésus l'a fait. Il a chassé les voleurs du temple à coups de fouet. C'était Jésus. Lorsqu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas justes, Dieu est irrité. Nous devons aimer ce que Dieu aime et haïr ce que Dieu est. Et nous sommes dans cette chrétienté-là qui abuse de Dieu. Dans cette forme de chrétienté que je vois un peu partout, et vous savez une chose, là, on veut rendre la grandeur à l'Amérique. Il n'y a qu'une seule personne qui peut rendre la grandeur à l'Amérique, c'est si Dieu revient en Amérique. En Amérique du Nord et parmi les nations. Monsieur Trump, il veut rendre la grandeur à l'Amérique. Notre premier ministre, évidemment, veut faire son best et son meilleur pour le Canada. Mais mes amis, qu'est-ce qui a béni l'Amérique? N'est-ce pas parce que Dieu avait la première place? Et l'Amérique a béni, et puis l'Amérique a fait des bonnes choses, des belles choses, a envoyé beaucoup de missionnaires et ont été larges dans leurs dons, et puis ils ont... Waouh! Ils ont reçu et ils ont été bénis en retour. Ils ont semé et ils ont récolté. Aujourd'hui, c'est que les politiciens essayent par tous les moyens de ramener un équilibre au niveau des nations. On a vu le G20, là. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, et puis, mais c'est du blablabla. Et puis souvent, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui bouge. Parce que ce sont des politiciens, ce sont des hommes d'État, ce sont des gens qui sont là, ils ont été placés pour cela, pour parler, et puis essayer de trouver des solutions. Mais il n'y a qu'un seul remède à ce monde en péril. Un seul remède, une seule personne, et cette personne c'est Jésus. Je vais vous entendre encore plus fort que ça. C'est Jésus le prince de la paix. C'est Jésus qui peut donner la paix, la paix souveraine, la paix dans ce monde. Amen. Nous devons remettre Jésus à sa place. Nous devons retourner aux valeurs de la croix. Amen. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies. Qu'est-ce qu'on voit dans les églises? Des adultères, des menteurs, des tricheurs. Il y en a! C'est méchant ce que je dis. Et c'est Dieu qui parle de ces choses-là. Dieu parle, mes amis. Dieu veut régner en maître. Et puis, on est tellement permissif dans nos vies. Et on se dit, au prix de Dieu, Dieu, envoie-nous un réveil. Non. Dieu dit, tu n'auras pas de réveil. D'abord, courbe-toi, face contre terre, supplie-moi, confesse ton péché. Reviens à moi, dit Dieu, reviens à moi de tout ton cœur. Délaisse les plaisirs de ce monde. Mets ta vie en ordre, mets ton foyer en ordre. Bénis ton épouse, bénis ton mari. Ils ne sont pas parfaits, ces gens-là, en non plus. Tes enfants sont là, ils te regardent. Tu es un modèle pour tes enfants. Ton foyer, ton couple est un modèle pour tes enfants. Ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, est-ce que ça les édifie, est-ce que ça les encourage de venir à l'église? J'étais dans une famille lors de mon voyage d'Europe. Et puis le pasteur nous a placés là pour nous héberger pendant une semaine. Lorsqu'on est arrivé, mon épouse et moi, devant cette maison, nous avons déposé, on a sonné à la porte, et puis le monsieur est arrivé, lève-toi frère, lève-toi. J'ai dit, comment ça va frère?
Ça va bien frère.
Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, ça ne va pas.
Ah, ça n'allait pas bien, ça
n'a pas. Alors tu me dis, ça ne va pas.
Ça ne va pas.
Non, mais il l'a dit un peu plus fort que ça.
Ah, il devait être un maudit.
Il me dit, non, ça ne va pas, Kimpe. Mais là, je ne connaissais pas cet homme-là, je ne l'avais jamais vu. Puis ça, c'était son accueil. OK. On est rentrés, mon épouse et moi, avec nos valises. Sa femme n'était pas là le soir, elle travaillait, donc le soir elle arrive, la même chose. Pour s'apercevoir que ce couple était en chicane, et puis on les entendait se batailler, puis s'insulter, et puis ça criait fort, nous on était dans notre chambre, et puis on les entendait, ça se disputait, puis aïe aïe aïe, où c'est qu'on est rendu là? Le pasteur était nouveau pasteur depuis 3 mois là. Donc, il ne connaissait pas vraiment cette famille. Il l'a connue par après parce qu'on lui a dit ce que c'était. Le dimanche matin, ce cher couple qui arrive à l'église, et lui se lève et puis il commence à prier, et puis la belle prière, et puis « Merci Seigneur, je suis ton serviteur ». On était ébahis. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Mais après mûre réflexion, je me suis dit, et combien de couples vivent ce genre de relation? Et ils arrivent à l'église et ça ne paraît pas. Est-ce que ce sont réellement les gens qui composent l'armée de Dieu? L'armée du Dieu vivant? Est-ce que réellement ils font du bien? Est-ce qu'ils font du bien au corps de Christ? Amen. Est-ce que réellement ces gens-là sont efficaces? Comment voulez-vous que Dieu exauce les prières de ces gens-là? Ces gens-là, vous les voyez, ils sont en faillite. À tous les niveaux, ils sont en faillite, ces gens-là. Ils ont une belle vue sur les montagnes, oui. Mais on a bénéficié de la belle vue sur les montagnes. Mais aucune chaleur familiale, rien. Et puis même, on nous a dit à un certain moment, on ne vous a pas accueilli ici pour vous nourrir. Alors là, c'était le bout des bouts. Il nous avait accueillis pour nous loger. Et puis, ça manquait, je dirais, de tact, non? Oh, je sais que c'est l'extrême, n'est-ce pas? Ça ne se passerait pas chez vous comme ça. Je pense que vous êtes beaucoup plus accueillant que ça. Ça va, mes frères et sœurs? Belle illustration, n'est-ce pas? David est l'exemple parfait du soldat, mais du soldat brebis. Je vais terminer bientôt. Il était un jeune berger, il avait des moutons sous sa responsabilité, mais il pouvait penser peut-être comme un mouton, oui. Il était tendre, bien attentionné, aimant. Il était aussi un adorateur. Mais cet adorateur, ce jeune berger, était aussi un guerrier. Un jour, il tenait un agneau dans ses bras. Et le lendemain, ou un peu plus tard en tout cas, il va tenir la tête du géant Goliath dans la main. Vous me suivez? Il était un berger, il était lui-même une brebis, bien intentionné, gentil, bienveillant. Et lorsque le temps fut venu de combattre le géant Goliath, alors mes amis, attention, le guerrier s'est réveillé en lui. Et ce que je vous souhaite, c'est que je puisse réveiller en vous cet esprit de guerrier en vous. De réveiller en toi ce soldat peut-être qui dort. Et alors que tu devrais réagir quand il faut réagir, mais alors de réagir fortement avec le sang de Christ, avec le nom de Jésus, et de réagir avec force, avec puissance. Amen. Aujourd'hui, oui, je suis un agneau, je suis une brebis. Amen. Mais dites au diable, attention si le guerrier se réveille en moi. Avez-vous déjà vu le film Incroyable Hulk? Qui a vu ce film-là? L'Incroyable Hulk. Il y a dessus une dose de je sais plus, de gamma, là, hein, et puis une force, une puissance qui l'a traversé. Puis quand ça se réveille en lui, ah, watchez-vous, là. On voit ses muscles. Les muscles, c'est un film. Mais savez-vous qu'il y a une puissance qui est en vous extraordinaire, mes amis? Amen! L'esprit qui habite Christ, qui était en lui et qui est là, présent au milieu de nous, il est aussi en toi. Il y a une force en toi, il y a une puissance en toi. Amen. Il y a là, je dirais pas une énergie, parce qu'aujourd'hui on utilise l'énergie sous toutes sortes de facettes. Non, mais il y a une puissance. C'est la puissance du Saint-Esprit qui est en toi. Et tu as le nom de Jésus, qui est au-dessus de tous les noms. Tu es puissante, ma sœur. Ouais. Tu es puissante. Pourquoi nous ne réagissons pas? Pourquoi nous nous laissons humilier, bafouer parfois? On est là, terre à terre. Le diable réussit à nous mettre à terre, alors que nous devrions pouvoir nous lever. Et puis là, cette puissance électrisante qui est en nous, tout à coup. Allô? Tout à coup, le soldat de Dieu paraît. Amen. La brebis du Seigneur, docile, soumise, mais qui devient guerrier. Qui devient soldat. Et là, il y a les armes spirituelles avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de notre Seigneur qui règne, qui est tout puissant. Ah, durant toutes ces années, j'ai appris à exercer ces armes. Avec mon épouse, on a appris à exercer ces armes. Sinon, on restait foutu, comme on dit. Sinon, nous n'aurions jamais pu aller jusqu'au bout. Nous n'aurions jamais pu évoluer dans la foi. Nous n'aurions jamais pu avoir des succès, je dirais, mais dont toute la gloire revient à Dieu. Et où nous avons vu la gloire de Dieu. Où nous avons aussi rassemblé des foules. Et où on a vu des milliers. Amen. Et on a vu tous ces milliers-là devant nous. Et on a vu les miracles, les signes. Alors, je suis tout à fait d'accord. Si tu prêches l'évangile, il y aura les signes, les prodiges, les miracles. J'ai vu cela, mon épouse a vu cela, dans sa propre vie. On raconte cela dans notre autobiographie. Mais il a fallu aussi être des soldats. Il a fallu être des guerriers, il a fallu se battre. Il a fallu se battre. Il y en a eu de l'opposition, il y en a eu des mensonges. Il y a eu toutes sortes, les détracteurs et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais il a fallu prendre les armes défensives et offensives. Défensives avec ce bouclier de la foi. Amen. Défensives avec le casque du salut. Mais aussi offensives avec l'épée de l'esprit. Oh, alléluia! La parole de Dieu. Et lorsque tu as la parole de Dieu, tu flanques ça à la face du diable. Attention, diable, si je me mets en colère. Et il le sait. Hello? Alors oui, gentil brebis. Mais aussi un grand soldat. Amen. Je suis allé sous l'inspiration beaucoup ce matin. Je me suis laissé conduire. Non pas ce qui était écrit n'était pas juste. Mais je vous aime, frères et sœurs. Puis je sais que vous êtes passés ici par toutes sortes de guerres. Vous avez su prendre les armes. Amen. Vous avez su prendre les armes. Je vous dis, restez comme cela, combatif. Amen. Vigilant aussi, mais combatif pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Qui veut être des soldats ici? Vous voulez être des soldats? Là, c'est vrai, je veux que vous vous identifiez vraiment avec une main levée. Mais je pense qu'on va faire plus que ça aussi, de vous identifier ici devant et d'être ici et puis de vous engager avec le Seigneur. Allez, venez avec moi ici. Et on va s'engager ensemble, et puis par une confession,